Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Salut à tous, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir, alors je suis dans le petit studio de Cosa Vostra, une fois n'est pas coutume, et j'accueille quelqu'un que je connais bien, je crois que je peux dire ça. Salut Enguerrand.
Salut Matt.
Alors Enguerrand Marc, c'est dommage qu'on n'ait pas tourné dans cette autre salle parce qu'en fait tu la connais parce que tu as déjà installé un bar dans cette salle.
Ouais, en effet, je me rappelle, c'était pour ton anniversaire.
Exactement.
Et on est venu en effet faire des petits cocktails pour la soirée d'anniversaire ici dans tes bureaux. Ça n'avait pas la même gueule.
Ça n'avait pas la même gueule, on avait un peu transformé, retourné le bureau, c'était il y a quelques mois. Enguerrand, tu vas me raconter un peu ce que tu fais, d'autant plus que tu fais un truc qui est, en fait, que beaucoup de gens ont rêvé faire, hein, en fait, une sorte de rêve d'étudiant, voilà. Commençons comme ça, je te demande de te présenter alors.
Ok, alors moi je suis Enguerrand Marc, je suis né le 29 juillet 1989 à Aix-en-Provence, j'ai grandi à Avignon. Jusqu'à mes 18 ans. À mes 18 ans, je suis parti à Paris rejoindre mes amis, mes frères, voilà, qui eux étaient déjà basés à Paris pour faire mes études supérieures. J'ai intégré l'école supérieure de journalisme de Paris. En parallèle de ça, j'avais besoin de me faire un peu d'argent à droite à gauche pour les sorties, payer 2-3 conneries, les fringues. Donc du coup, je bossais, j'avais un petit job étudiant dans un bar, bar à cocktail, qui était situé rue Oberkampf. Tout a démarré un peu de là, parce que en fait, j'ai commencé à bosser dans ce bar à cocktail pendant mes études. Après, j'ai terminé mes études à l'école supérieure de journalisme de Paris. J'ai été journaliste pendant 2 ans et demi chez M6.
D'accord.
Voilà, à la rédaction du 12-45 et du 19-45. Mais j'étais plus basé sur le 12-45.
J'étais JRI ?
J'étais JRI au départ et après j'étais simplement rédacteur.
Journaliste, reporter d'images.
Exactement.
Ouais, ok,
exactement.
Rédacteur.
Et après j'ai été plutôt rédacteur pour le 12-45. Et en fait, pendant 2 ans chez M6, tout se passait super. À la fin, j'en avais un peu... j'avais un peu fait le tour du format news, qui est un format super enrichissant. M6 m'a appris beaucoup de choses, mais qui est assez rébarbatif. Et donc, du coup, je commençais à passer un peu des entretiens à droite à gauche pour différentes boîtes de prod, différentes chaînes. Et à ce moment-là... mon associé et ami d'enfance Victor Grégoire, lui revenait.
Salut Victor.
Ouais. ouais, qu'on se salue. Lui revenait de Londres.
Ok.
Lui, il a une formation hôtelière. Il a fait l'école hôtelière de Glion en Suisse. Et lui revenait de Londres. Il avait plutôt l'habitude de bosser pour les palaces. Et depuis qu'on était tout gosse, on s'est dit bah viens, on monte un bar ensemble, et il s'est trouvé que le bar dans lequel je bossais quand j'étais étudiant se vendait, et donc du coup nous on a au début on n'y a pas trop cru, et puis derrière on a dit bon bah allez, allons le visiter. On l'a visité et puis on l'a shooté, quoi.
C'est marrant parce que alors nous on se connaît par ton frère, hein, qui est Nicolas, qu'on embrasse aussi. Un de mes meilleurs potes, et depuis que je te connais, j'ai l'impression que tout ce que tu as fait, ça a toujours été un truc un peu naturel. C'est-à-dire que Victor, vous êtes revu, puis peut-être... Ça, je ne savais pas, en l'occurrence, cette histoire de ce bar dans lequel tu bossais, qui était à vendre, etc. Mais à chaque fois, on a l'impression que tu vois un nouveau bout de ficelle, tu tires dessus, tu là-dessus, vous n'auriez pas eu cette opportunité, vous auriez quand même monté un bar ?
Alors, en fait... C'est vrai qu'au départ, et c'est là où je te rejoins un peu sur le fait de dire on a tous un peu cette envie folle quand on est étudiant, quand on est plus jeune, de se dire « Ah, ce serait cool d'avoir un bar », et c'est vrai qu'on l'a eu. Enfin, je veux dire, je l'ai entendu de plusieurs personnes différentes, mais de là à passer le cap, je pense que...
Ah mais non, mais clairement, personne ne le fait.
En fait, c'est juste le fait de se dire, bon bah... Allez, il y a toujours un grain de folie, mais je pense que quand on est entrepreneur, il faut toujours passer ce petit cap de se dire bon, allez, on y va et feu et on verra ce que ça donne. Et en effet, ça a été assez naturel. Disons que moi, je connaissais plutôt pas trop mal les ficelles du bar dans lequel je bossais avant, quand j'étais étudiant. Victor, lui, revenait de Londres, il avait vraiment une partie école de gestion hôtelière que moi, j'avais pas du tout. Et puis on avait un réseau important et puis voilà, alors c'est vrai qu'on a monté l'Ours Bar rue de Paradis en 2013, donc on va fêter les 6 ans là en novembre prochain.
Faut voir, attends, juste parce que tu vas pas le dire, mais l'Ours c'est devenu même assez rapidement, mais c'est une forme, même si c'est tout petit, c'est quand même une forme d'institution chez beaucoup de jeunes trentenaires ou de, enfin voilà.
Ouais,
c'est dans un quartier super.
Alors c'est là où on a été aussi dépassé parce que on a ouvert en fait l'Ours en novembre 2013 et je pense qu'on a aussi été dépassé et que ça a plu parce que quelque part dans la démarche. Beaucoup de gens se sont reconnus. C'est-à-dire que c'est un peu comme je te dis, viens, on monte un bar entre potes, et c'était exactement ça sur le papier au départ. Donc aujourd'hui, moi, mon métier, il est complètement différent à l'aventure qui s'est lancée en 2013 avec Victor, où on s'est tapé sur l'épaule et on s'est dit, bah, let's go, quoi. Et donc, du coup, à cette époque-là, c'était... moi, j'avais 23 ans, Victor en avait 24. Enfin, moi, je me rappelle annoncer ça à mes parents. C'était compliqué, quoi. Ouais. C'était compliqué, c'était compliqué parce que ma mère, elle me voyait plutôt 20h que derrière un bistrot. Quoi.
Sachant que tes frères, ils ont quand même tous des vrais métiers. Quoi.
Sachant que mes frères, ont tous des vrais métiers. Ouais. Non, c'est pas faux. C'est pas faux. Non,
il y en a un de mémoire qui est chez McKinsey, qui est chez BNP dans un...
Exactement.
Voilà. Et puis un autre qui est
sa boîte. Mais c'est vrai que c'est plutôt des carrières... plus sages, des domaines d'activité plus sages, quoi.
Même si finalement, tu vas nous le raconter, mais alors t'es encore au tout début de cette aventure, et c'est pour ça là on est dans ce podcast Early Stage, on sent que t'es au tout début dans le sens où l'Ours, qui est ton bar d'origine, tu vas nous raconter, est en train de devenir vraiment un concept beaucoup plus large. Et je ne sais pas si tu avais anticipé tout ça dès le début, mais vous êtes parti sur un concept, vous, qui est assez surprenant. C'est du bon cocktail à pas cher. C'est un peu ça.
Ouais, exactement. En fait, en effet, c'est là où je te dis qu'aujourd'hui, mon métier, il est complètement différent qu'il y a 6 ans, quand on s'est lancé dans cette aventure. C'est que...
Tu étais barman, quoi.
Ouais, non, mais c'est ça. De un, j'étais barman. Le métier...
Je dis ça avec zéro condescendance parce qu'en plus c'est des super, t'étais bon barman et c'est des super bons barman.
Ce que je vais te dire, c'est que après je pourrais en parler aussi. Ça a été des difficultés de changer aussi de métier au fur et à mesure de l'avancée de notre aventure avec Victor. Mais c'est vrai qu'au début, moi j'ai appris le métier sur le tas. Les spiritueux, c'est un domaine qui en effet m'intéressait. J'aime beaucoup aussi le fait de se dire qu'un bar est un lieu de rencontre et c'est hyper important pour moi. Et en fait, c'est assez contradictoire avec le fait d'en monter plusieurs parce que tu peux tout de suite tomber dans le côté chaîne, entre guillemets, ce dont on n'a pas vraiment envie. Hein. On veut quand même que ça reste des bars de quartier. C'est pour ça qu'on s'implante dans des quartiers...
quartier.
Ouais, exactement. Familiaux. Et on cherche des petites structures. On cherche pas des énormes bars type pub irlandais hyper fat.
C'est pas le Hard Rock Café.
Non, exactement. Et donc, du coup, tout ça pour dire que c'est vrai que quand t'es barman, tu te dis pas à aucun moment... c'était un rêve fou de se dire ben pourquoi pas en avoir plusieurs, mais on part pas du principe de on va en avoir plusieurs, ça va se faire comme ça. C'est on est derrière le bar, on prend du plaisir à rencontrer des gens différents tous les soirs. Alors à passer un moment, c'est vrai que c'est fatigant, non pas de rencontrer les gens, mais le bruit, le milieu dans lequel on évolue, terminer tard le soir.
Surtout qu'il faut voir un truc, c'est que l'ours, qui a vraiment un super bar, et puis moi j'ai beaucoup de... beaucoup de tendresse parce que vraiment un endroit où je t'ai vu moi décoller et j'ai adoré et très vite d'ailleurs hein, ça a explosé littéralement, mais c'est tout petit, ouais. Et vous servez quand même des cocktails, donc par définition vaut mieux venir sans ton scooter parce au bout de trois verres t'es par terre. J'exagère un peu, mais c'est quand même pas voilà, ça se boit facilement, c'est bon, etc. Et du coup évidemment toi quand t'es de l'autre côté de la barrière et que t'es sobre idéalement, j'imagine
on est c'est mais d'ailleurs aujourd'hui encore c'est on fixe deux règles aux gens avec qui on bosse au bar, c'est interdiction de boire de l'alcool. Donc c'est-à-dire nos bars à cocktails, c'est un lieu de vie, un lieu de fête, voilà, faut que ce soit l'ambiance, mais impossible de boire de l'alcool.
Tu bois pas un shot avec tes invités,
Non, on fait même parfois des bouteilles factices avec de l'eau dans des bouteilles de vodka, comme ça on sert un shot. Après voilà,
tu le factures pas, j'espère.
Non. Non, c'est pas le genre de la maison. Après voilà, une bière en fin de service entre nous, à l'époque où je bossais derrière le bar, oui, ça se faisait, ça c'était Et la deuxième règle, c'est tu préviens pas à 16h pour 18h que tu peux pas être là parce que sinon tu mets tout le monde dedans. Ouais. Tu mets tout le monde dans le jus, sauf cas exceptionnel, bien évidemment, mais voilà, on essaye d'avoir une rigueur, c'est un métier où en effet il y a c'est assez festif, il y a les cadres, les limites sont minces, et donc du coup il faut quand même fixer deux ou trois règles importantes à ne pas franchir.
Alors vas-y. Pardon, tu voulais rajouter un truc.
Non, mais c'était pour en revenir sur ton idée de... Enfin c'est vrai que tu m'avais lancé sur le concept en lui-même, et c'était pour revenir là-dessus.
Ouais, je t'en prie.
Pour te dire que nous, en fait, en effet, quand on a monté l'ours, pourquoi je pense que ça a pris tout de suite, c'est que donc dans un premier temps c'est un bar d'amis, donc on est parti vraiment comme ça, et les gens se sont reconnus là-dedans, et de deux, nous on est tous les deux d'Avignon avec Victor, moi je suis un amoureux de Paris, mais c'est vrai que quand on est arrivé d'Avignon,
on se check parce qu'on est tous les deux amoureux de Paris.
Ouais, mais je suis pas d'ici et je terminerai pas ma vie ici, mais c'est vrai que quand on est arrivé d'Avignon, c'était pour nous, à Avignon, les gens parlent avec les mains, ça se tape dans le dos, je sais pas, c'était beaucoup plus familial, et c'est vrai qu'on est arrivé, on s'est pris tout de suite, niveau température, ça nous a un peu calmé, mais c'est vrai que ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie différence de gérer la clientèle en province, et pas forcément en Provence, mais en province et à Paris, et c'est vrai que nous, on voulait un peu casser avec ça, et notre concept, c'est de partir... De se dire que mais le nombre de bars où on est allé à l'époque boire un verre et on commande deux bières, juste bonjour, est-ce que c'est possible d'avoir deux bières, et la personne pose juste les bières et dit 7 balles et même pas bonjour, rien. Nous, ça, on est vraiment parti de ce postulat là et de se dire waouh, un bar c'est quand même un lieu de vie. Alors quand t'es dans le rush, je comprends, ouais. Mais si tu veux, nous à l'ours, dès qu'on a ouvert le bar, le but c'était de dire à tous les clients, si on pouvait, un petit mot. Bonjour, salut, ça va,
tu vas bien. On est d'accord, Enguerrand, quand même, qu'il y a une espèce de grand jeu non dit aussi dans les cafés. Alors, pas en France, là, je pense que c'est typiquement et parisien, en l'occurrence, hein, mais de ce garçon de café qui est avec son petit nœud pape noir et son petit uniforme. Qui est souvent pas sympa,
ouais.
Mais en fait, c'est un grand jeu. Et quand tu passes, tu connais bien l'endroit et tu commences à les connaître, il y a quand même ce truc où en fait, au bout d'un moment, il y a ce petit jeu où les mecs sont pas sympas, mais qui se crée. Voilà.
Je vois ce que tu veux dire.
Avec le TripAdvisor, tout ça, ça marche plus, ça, parce que tu te fais dézinguer la gueule.
Mais c'est vrai. Mais t'as toujours, c'est vrai, ce mec de la resto qui fait ça depuis des années, qu'on a un peu à la casquette quelque part, mais qui adore quand même son métier et qui est de prime abord hyper froid, hyper dur. Et c'est vrai que quand on perce un peu sous la carapace, en fait. Bon bah voilà, c'est juste que la routine, ça l'use un peu, mais c'est vrai qu'il peut être assez sympa. Mais c'est vrai que nous, quand on est arrivé, c'est le ressenti qu'on a eu, si tu veux. Et donc du coup, on a essayé de vraiment, le premier truc, c'était de créer une ambiance familiale, une ambiance vraiment décontractée.
Ouais.
Et de deux, c'était, on s'est positionné sur un secteur qui n'existait pas à l'époque, qui était de créer des cocktails, travailler, essayer de pousser les recettes au maximum, comme peut y avoir dans nombreux bars à cocktails parisiens, comme ceux de l'Expé Group,
Expérimental. Hein,
Expérimental Cocktail Club, comme différents autres bars à cocktails hyper réputés, mais à des prix hyper abordables. Donc, on propose des cocktails, et on s'est vraiment démarqué par le pricing, des cocktails travaillés à 6 euros de 18h à 21h, et après 21h, ils passent à 8 euros. Là où dans tous les bars à cocktails de la
c'est 10 balles de plus.
Non, mais c'est ça.
Ouais, ouais.
Dans tous les bars à cocktails de la capitale, le premier drink est à 12 balles, quoi.
Ouais, et puis voilà. Le cocktail, c'est en effet plus souvent 16 jusqu'à 25, enfin, ouais. Jusqu'à des prix complètement déconnants.
Tu peux avoir des prix délirants, mais après, pour moi, tout se justifie. C'est pas parce que nous, on fait ça que ce que font les autres, nos concurrents, entre guillemets, parce que je considère pas vraiment qu'on soit concurrents, parce que il y a des choses, le concept est différent. Mais
le bar du Lutetia a coûté un peu plus cher à produire.
Ouais, confirme. mais ce que je veux dire, c'est que t'as des clients qui, et toute forme d'âge, toute forme de pouvoir d'achat, qui à un moment viennent à l'ours et se disent, mais ils n'ont pas la. En fait, ils ne comprennent pas que dans certains bars à cocktails, parfois, ils se retrouvent à payer 24 euros pour deux verres, alors que chez nous, ils viennent à 19h et ils ont quatre verres pour le même prix.
Mmh.
Et donc, du coup, ils n'arrivent pas à vraiment voir la différence.
Et ce qui est ouf, c'est que quand on parle de ton concept, il y a deux choses qui peuvent venir. Enfin, moi, et toi, tu dois le sentir plus que moi, évidemment, puisque c'est ton concept et que t'en parles tout le temps. C'est soit je me fais... J'allais dire piné, mais je me fais.
Ouais.
Pardon, je l'ai
non,
dit.
Oui, piné, tu peux
partout,
dire.
Je peux le dire, c'est mon podcast après tout. Merci, Enguerrand. Partout, soit ils se disent chez toi, il y a un truc qui cloche. C'est-à-dire, tu mets plus d'alcool, t'as du mauvais alcool ou des choses comme ça. On a déjà eu cette discussion, on va la revoir ici parce qu'évidemment, il faut l'expliquer.
Bien sûr.
En l'occurrence, toi, tu dis c'est ni l'un ni l'autre, quoi.
Moi, je dis c'est ni l'un ni l'autre. Je dis que tout est justifiable, sans comparer. Moi, je vais t'expliquer notre concept. Donc, en effet, c'est des cocktails à 6-8 euros. Comment on fait? C'est un peu la question que beaucoup de clients se posent.
C'était moche comme terme, hein, quand même. Je reviens là-dessus, mais je le regrette. Hein. Vous m'excuserez. Pardon.
Non, mais tout va bien. les gens nous disent, mais comment vous faites pour être moins cher? C'est ahurissant. Et en fait, c'est très simple. On est moins cher.
Parce qu'on met beaucoup de glace.
Parce qu'on remplit énormément de glace et on met 2 centilitres. Non, c'est pas vrai. On est assez généreux d'ailleurs en alcool. On utilise et on ne s'en cache pas. Très sincèrement, puisque vous allez dans n'importe quel de nos bars, tu as en facing 2 étagères. La première chose que tu vois dans n'importe quel de nos bars, que ce soit à l'Ours, au Renard ou à la Loutre, parce qu'aujourd'hui on en a 3, tu as en facing, c'est-à-dire en back bar, tous les alcools sur l'étagère du bas qu'on utilise à la verse, donc qui sont les alcools que tu utilises dans ton cocktail que tu vas demander, et sur l'étagère de haut, tous les alcools un peu premium. Nous, on a des cocktails à 6 euros parce qu'on utilise des alcools dits de grande distribution. On ne s'en cache pas, il n'y a aucun souci là-dessus.
C'est quoi un alcool de grande distribution?
Un alcool de grande distribution, certains vont te dire que c'est des mauvais alcools, mais pour moi, c'est pas forcément des mauvais alcools, puisque de un, ils sont distribués dans les grandes surfaces, et c'est, j'en veux pour preuve, le Gordon, qui est un gin de grande distribution que nous, on utilise à l'averse, la Smirnoff, qui est une vodka de grande distribution que nous, on utilise à l'averse, nous permet d'avoir des cocktails à 6 euros, mais c'est des alcools qui sont quand même distillés 3 fois. C'est des alcools qui ont un degré de 40, qui sont ce qu'ils sont.
C'est les volumes qu'ils font qui leur permettent d'avoir des prix comme ça.
Exactement. Ouais. Nous, on travaille essentiellement avec Moët & Hennessy.
D'accord.
Qui est notre fournisseur principal. Sur ces références et on leur explique et ils comprennent notre concept, on leur dit voilà, nous on va vous prendre certaines références pour l'étagère du dessus qui sont des alcools premium, mais ce sera pas notre volume, ce sera pas ça, ce sera tout ce que vous avez en bas, Smirnoff, Johnnie Walker Red Label, Gordon, et à ce moment là on va vous en commander des palettes pour essayer de tirer au maximum le prix vers le bas pour derrière pouvoir proposer aux consommateurs un prix de cocktail vraiment hyper abordable. Voilà.
Et du coup, eux ont des marques, t'es maqué avec eux quand même sur toutes les marques premium.
J'imagine. Et surtout, oui, alors, en fait, si tu veux, comment on a fonctionné avec Victor, c'est que la première année à l'Ours, quand on a ouvert, on a voulu signer avec personne. Tout le monde est venu nous voir, parce que quand un nouveau bar à cocktail ouvre, que ce soit Bacardi Martini, Pernod Ricard, Moët Hennessy, tout le monde vient te voir et te fait une propale. Nous, on voulait d'abord avoir connaissance des volumes et de nos volumes. Et donc, du coup, on a fait une année où on est allé tous les jours chez Métro. Et donc, du coup, maintenant, ça a été assez sport. On allait toutes les semaines chez Métro. On se faisait les courses pour le bar. C'était bon. Une vraie prod. Et au bout de la première année, on a connu nos volumes. Et là, on a fait un peu le tour et on avait un super copain que j'embrasse qui s'appelle Guillaume Bizio, qui était brand ambassadeur à l'époque pour Moët Hennessy. Et qui nous a dit, bah, écoutez, moi, je peux vous faire une propale avec le commercial et puis on en discute, quoi. Ils sont venus au bar, ils nous ont fait une propale et nous, on voulait absolument pas signer. On voulait pas signer de contrat, on voulait pas être lié par un contrat, par une marque. Et en fait, c'est ce qui a fait notre relation de confiance avec Moët Hennessy, puisque maintenant, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Et aujourd'hui, en effet, à l'inverse, on distribue tous leurs alcools, mais on n'est pas maqué avec eux, à tel point, c'est qu'on distribue aussi sur l'étagère du haut plein d'alcools de leurs concurrents. Et ils nous forcent en aucun cas à ça.
C'est une belle pratique à avoir. Et du coup, ils ne te subventionnent pas comme ils le font avec beaucoup, enfin comme c'est fait dans beaucoup de bars.
Non, c'est un parti pris parce que en fait, qui dit subvention de marque dit forcément
PLV, c'est
ouais,
ça.
Dit PLV.
Donc PLV, c'est publicité sur le lieu de vente.
Exactement.
C'est-à-dire que tu dois afficher des Cronenbourg, des Bacardi.
Et nous, on a quand même...
Des beaux endroits.
On essaye d'avoir des beaux endroits. Alors après, bon, c'est vrai que vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de passages parce que les gens viennent et c'est ce qui fait le succès, donc le volume, c'est vrai que bon, les bars prennent un peu cher, donc est obligé de faire des rafraîchissements chaque année. Mais non, on essaye d'avoir des beaux lieux et c'est vrai qu'on n'a pas du tout envie d'avoir une grosse PLV. Je dis une bêtise, Smirnoff, en gros, c'est pas le genre de la maison, quoi.
Ouais, parce que tu finis avec une devanture, ouais, toute brandée, tout ça.
Exactement.
Alors revenons justement sur les métriques et tout ça. Donc t'as 23 ans, comment tu crées un bar à 23 ans? Enfin, je veux dire, tu trouves, t'y connais rien quand même, à part t'as bossé un peu dans un bar, mais enfin, tu sais faire des cocktails, mais.
Non, c'est vrai que, et en plus, je vais te dire un truc, l'ours, j'y étais encore samedi là. J'essaye d'y passer en début de soirée de temps en temps. L'ours, entre l'état où nous on l'a ouvert avec Victor et la première carte de cocktail et la carte de cocktail aujourd'hui de l'ours bar qui est proposée, mais il y a un monde immense, parce que même si avec Victor on est des éponges et on a essayé à l'époque d'apprendre sur le tas.
Attention, dire quand tu es une éponge et que tu vends de l'alcool, ça peut être mal interprété.
On a essayé d'apprendre, si tu veux, sur le tas, se renseigner, lire des bouquins, faire des tests. On a beaucoup bossé, si tu veux, les recettes. Aujourd'hui, nos gars, ils proposent des cartes de cocktails et des cocktails hyper pointus. Je goûtais notamment un cocktail de Vincent de l'Ours qui va proposer à la nouvelle carte, parce qu'on va faire le tasting nouvelle carte dans 2 semaines. Il va proposer un cocktail avec du jus de poivron maison, une vodka qui fait infuser avec des jalapenos. T'as des trucs très pointus, là où nous, à l'époque, c'était beaucoup plus terre à terre, quoi. T'avais un sirop, on essayait de mettre un petit coup de jus de citron.
Il faut que tu coupes ton téléphone parce que je pense que t'as un téléphone qui fait faire ce... Non,
non,
c'est pas toi.
Je les ai mis en mode avion.
Ah, bah, je sais pas, alors c'est quelqu'un d'autre pas loin. J'espère que ça va pas trop vous déranger, chers auditeurs.
Nous, c'était vraiment, si tu veux, un demi-citron, un morceau de sucre, enfin une cuillère de sucre, un peu de cannelle en poudre, du rhum. Tu vois, c'était des goûts comme ça. Enfin, t'avais vraiment un truc un peu amateur, mais on essayait vraiment de bien faire.
Mais t'en avais très peu aussi, non?
Alors, on en avait peu au début. Après, on en a eu beaucoup sur nos... Enfin, il y a 2 ans, et puis on a vraiment réduit. Parce que
c'était vraiment un des trucs qui m'avait plu aussi dans votre approche, évidemment, c'est que, en fait, tu me dis si je dis des bêtises, mais il me semble qu'au début, en fait, vous aviez vos cocktails à vous. Tu pouvais pas forcément faire... enfin, demander tous les cocktails traditionnels.
Alors si, non, non.
Au tout début.
Ouais, nous on pouvait. Et au contraire, si tu veux, là où si tu veux, on s'est jamais caché, on a toujours été franc, c'est que on a toujours dit voilà. Par exemple, t'as des clients qui arrivaient et qui demandaient voilà, est-ce que je pourrais avoir tel cocktail? Nous, de manière très franche, pas de souci, mais on sait pas le faire. Écoute, pas de problème, on va regarder si on a tous les ingrédients, on le fait. Et en fait, cette démarche a interpellé vachement les gens, parce qu'il y a des gens hyper pointus du monde du cocktail qui venaient chez nous et qui disaient « mais comment ça, il sait pas faire ça ?» Mais quelque part, la franchise faisait que bah, le type disait « ah bah ouais, bah écoute, cool, il est franc, il me dit qu'il sait pas le faire, mais s'il a les ingrédients, il va le faire. » Et donc du coup, ça nous forçait à nous appliquer d'autant plus pour essayer de vraiment sortir un cocktail bon et bien fait. Et donc du coup, ben, on essayait au maximum de proposer tous les cocktails qu'on pouvait proposer.
Mais ce qui est un ingrédient qu'on met de plus en plus en avant chez beaucoup de gens qui passent sur ce podcast, dans plein de startups et plein d'endroits, c'est l'authenticité, quoi.
Ouais.
C'est pas forcément faire une sorte d'énorme mascarade sur je suis le meilleur pro de tout ce que tu me demandes, mais en revanche, je teste avec toi, puis si c'est pas bon, au pire, je le jette et puis je t'en filerai un autre, quoi.
Mais c'est encore notre politique. C'est-à-dire que déjà, les gens qu'on prend pour bosser, c'est-à-dire que on me dit souvent, est-ce que tu prends des pros? Comment tu fais pour rechercher les personnes qualifiées? Alors, les responsables de chaque bar sont des gens qui sont passés soit par d'autres bars à cocktails, soit qui sont des promotions en interne. Mais la personne qui rentre comme ça, from the scratch chez nous, elle n'a pas forcément, et je ne recherche pas forcément, à ce qu'elle soit passée derrière un bar à cocktails, tel bar à cocktails, ou qu'elle ait telle formation. C'est mieux si elle l'a. Mais après, je préfère quelqu'un de volontaire, qui a envie d'apprendre, qui a l'énergie, qui a la soif, l'avidité de connaissance, plutôt que une personne qui va arriver et qui va dire « Non, mais moi, ça, je sais faire. Moi, je fais comme ci, moi, je fais comme ça. Je vais vous montrer. »
Une question d'état d'esprit plutôt une question, que de compétence.
Exactement. Ouais. Et je pense que ça paye toujours, parce que du coup, c'est vrai que l'authenticité, comme tu dis, en fait, il n'y a pas de mal à dire « Bah voilà, je ne sais pas faire. » C'est pas dans mon domaine de compétences, mais je vais essayer de tout faire pour le faire pour toi. Et je trouve que c'est payant. Moi, dans mes expériences personnelles, je préfère.
Je suis assez, voire complètement pro sur cette approche dans toutes les expériences pro que je peux avoir, etc. C'est assez à la limite si tu parles à un cardiologue, quoi, évidemment, ouais, parce non, que le mec, si tu dois faire un massage cardiaque ou je sais pas, c'est plus compliqué. Mais en effet, je te rejoins carrément là-dessus, sur le fait que l'état d'esprit compte souvent beaucoup les compétences. Mais pour revenir à ma question sur le tout début, au-delà des compétences sur les cocktails, c'est quoi la modélisation économique? Ça coûte combien d'ouvrir un bar? Comment tu achètes un pas de porte quand tu l'as jamais fait? C'est quoi? Comment tu. Toi, t'as pas d'argent en plus au début, j'imagine, Victor non plus. Donc, comment vous faites ça?
Victor, il avait un peu d'argent de côté.
Surtout que, pardon, pour finir complètement cette question, souvent, le sponsor de l'alcool te permet d'avoir les 20, 30, 40 000 euros dont tu as besoin pour approcher ta banque.
Des prêts brasseurs, tu as des prêts en effet auprès des marques et tout qui peuvent te permettre de...
Et vous n'en avez pas profité, quoi.
Non, nous, on n'en a pas profité. On a eu la chance de ne pas en profiter. On a eu l'opportunité de ne pas en profiter. Alors, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que, donc, en effet, moi, je travaillais dans ce petit bar à cocktail quand j'étais étudiant. Les propriétaires de ce bar qui étaient devenus des amis au fur et à mesure du temps... me disent, bah voilà, eux, ils en avaient deux, ils en avaient un rue Oberkampf et un rue de Paradis, qui était une cave à vin. D'ailleurs, je les embrasse, cela dit au passage, j'y pense, parce que c'est Jean-Charles Bravo et Jean Navarre que j'embrasse fort, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quelque part, c'est un peu à eux que je dois, si je suis là en train de te parler.
C'est bien de le faire.
Voilà. Et donc, du coup, ils avaient ce bar à vin, cave à vin, qui était rue de Paradis, qui prenait pas trop. Et donc, au débotté, ils me disent, est-ce que ça t'intéresse? Je dis, ok, on y va. Feu avec Victor, l'histoire se passe. Et déjà, vu que c'était des amis qui nous vendaient ce bar, il y avait tout de suite une relation de confiance. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont, même si on parle de sommes d'argent importantes à l'époque, pour nous...
Combien?
Ben 160 000 euros. Voilà.
Donc et là, tu n'achètes même pas le...
Nous, on achète le fonds de commerce.
Donc un fonds de commerce, c'est juste le droit de rentrer là-dedans, alors que tu n'as pas les murs qui appartiennent à quelqu'un. Tu continues à payer un loyer à quelqu'un d'autre. Mais c'est ce qui équivaut à dire, bah, comme j'ai un bon emplacement, en me mettant ici, alors, je devrais gagner suffisamment d'argent pour payer ce fonds de commerce.
C'est à peu près ce qu'ils faisaient en chiffre d'affaires. Voilà. Mais eux...
une année de chiffre d'affaires, donc, à peu près.
Voilà, exactement. Mmh. Alors, après, eux, c'est différent. Ils étaient vraiment dans une logique de s'en séparer parce qu'ils avaient vraiment des problèmes de gestion de personnel. Ils n'arrivaient pas à gérer le... Ils n'arrivaient pas à gérer le personnel, à trouver du monde pour leur premier bar, puis du monde pour leur deuxième bar. Et puis, en effet, c'était un concept différent, puisque dans leur premier bar, ils faisaient des cocktails, là, ils faisaient du vin. Bon, bref. Donc, du coup, on tombe d'accord sur 160 000 euros.
Donc là, c'est un emprunt sur 7 ans, c'est souvent le cas, non ?
Alors, c'est souvent le cas. En fait, on a eu la chance d'avoir des friends and families.
Ok.
Victor, lui, il avait son grand-père lui avait légué une somme d'argent qu'il a injecté en l'occurrence nous de notre côté, enfin je parle pour moi et pour Victor, après on est allé voir un peu à droite à gauche. Mmh. Mon frère notamment, un de mes frères nous a vraiment beaucoup aidé.
Donc ils deviennent tous actionnaires ?
Et non,
c'est du prêt ?
C'est de l'apport en compte courant.
Ah, trop bien.
Voilà. Et donc du
Faire.
Coup, ouais.
Très
ouais, ouais. Et donc du coup, moi je me rappelle, si tu veux, que donc on doit de l'argent à mon frère, et je me rappelle, si tu veux, que à l'époque 160 000 euros, c'était une somme énorme quand j'avais 23 ans, et c'est encore une belle somme. Mais si tu veux, j'étais tellement paniqué par le fait de me dire si ça marche pas. Je vais me mettre en porte-à-faux avec mon frère, et j'ai tellement de très bonnes relations avec mes frères que j'avais qu'une peur, c'était que ça détruise cette relation, que j'ai regardé Victor et je lui ai dit écoute, on va tout faire et on va tout cartonner pour tout rembourser le plus rapidement possible.
Tu sais que c'est important ce que tu dis, parce que pour beaucoup de fonds d'investissement, quand ils ont ce que tu appelles friends and family, donc le love money, pour un autre terme, donc souvent avant ce qu'on appelle les early stage, puis seed, série A, etc., etc., dans tout l'univers des startups, quand tu arrives en série A et que tu as un gros fonds qui rentre, ils adorent quand tu as du love money, parce que, en effet, quand tu as tes parents, tes frères, tes cousins qui sont impliqués, a priori, t'es pas là pour les planter tous, et voilà, non. Parce que c'est tu perds beaucoup plus qu'un business, quoi. Derrière, c'est vraiment le sou, quoi.
Mais c'est exactement ça. Et puis moi, je privilégie, enfin, j'avais vraiment, comme je te dis, d'excellentes relations, et j'ai toujours d'excellentes relations avec des relations privilégiées avec mes frères. Et donc du coup, quand ils me prêtent de l'argent, moi j'étais pas tétanisé, si tu veux, mais ça m'a vraiment boosté. Et on s'est regardé avec Victor et on a dit mais on va tout déchirer et il n'y a pas moyen. On était prêt à se dire mais si ça marche pas, on se lèvera à 6h du matin, on fera des croissants, on fera autre chose, mais on va tout déboîter et on va rembourser le plus rapidement possible.
Et donc du coup, tu arrives à quoi ? C'est quoi ton niveau de remboursement mensuel au début sur un truc comme ça, entre le loyer et les 160 000 euros à rembourser, au-delà même des consommables, quoi ?
Écoute, je vais être tout à fait franc. On est complètement dépassé par les événements, on explose, en fait. On explose complètement le business.
Dès le premier jour ?
Mais dès le premier mois. Donc, c'est-à-dire que dès le premier mois...
2013, t'as dit ?
On ouvre en novembre 2013. Dès le premier mois, on se retrouve avec plein de publications presse. My Little Comment, Paris, pourquoi ? Time Out...
C'est le prix qui fait ça ?
Village Webs, Elle Magazine, enfin...
Mais comment tout le monde...
Alors, moi, j'étais journaliste avant. Donc, j'envoie... J'avais quelques potes qui bossaient à droite à gauche, mais c'était des gens de ma génération. Donc, c'était plutôt des juniors qui proposent dans leur conférence de rédac, « Salut, il y a ça qui sort. On pourrait peut-être écrire un truc. »
Donc, tu les invites à boire des coups ?
Non, même pas. Je leur dis « Voilà, moi, je monte mon bar. Tout le monde le sait. » Et puis, en fait, la mayonnaise prend, quoi. Mmh. Et donc, dès le premier mois, il suffit qu'il y ait un article qui sorte chez un gros pour que derrière, paf, ça a été repris par Time Out. Tiens, on va y faire un article là-dessus. Tiens, on va faire ci. Tiens, on va faire ça. Et là, derrière, on se retrouve. L'ours bar fait 40 mètres carrés.
Ouais.
On se retrouve blindé. À tel point, c'est que dès le deuxième jour, avec Victor, on a été obligé d'embaucher quelqu'un.
Deuxième jour.
Dès le deuxième jour.
Donc, on était dit, première année, on va être tous les deux, quoi.
Mais je pensais avec Victor que ça se faisait à deux. Et en fait, dès le deuxième jour, là, je prends un de mes potes et je me rappelle Hugo Pouchard, que j'embrasse. Et je lui dis, Hugo, toi, t'as déjà été à Londres, tu sais tirer des pintes, tu te fous à la tireuse, tu me tires des pintes et point barre, t'encaisse, basta. Et il est resté avec nous en job étudiant pendant 6-8 mois.
D'accord.
Et puis voilà, et puis derrière, on explose le truc, et pour être tout à fait transparent avec toi, on ne se paye pas la première année. Victor et moi, on passe une première année sportive.
Ouais.
On bosse 6 soirs sur 7. Pas de vacances. À l'époque, on ouvre à 17h et pas 18h. Donc, faut arriver au bar à 15h30, 15h45.
Parce que t'as plein de préparations.
Exactement.
T'es fermé quoi le lundi soir ?
Je suis fermé le dimanche soir.
D'accord.
On se couche à 2h du matin parce que quasiment tous les soirs, parce que si tu veux, quand c'est pas plus le week-end, mais si tu veux, vu que ça prend et que ça explose, les lundis ressemblent à des jeudis, les mardis à des vendredis, la presse fait que tout le monde vient.
Mais tu fais les erreurs que tout le monde a fait dans les bars, c'est-à-dire que tu te mets la tête à la fin de service.
Je vais glisser un petit mot pour mon associé, pour Victor, parce que je suis quelqu'un de très très entier et quand j'étais étudiant, je faisais beaucoup beaucoup la fête et je suis quelqu'un qui aime la vie de manière générale. Et Victor est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Et je me rappellerai toute ma vie de ce premier ou deuxième soir au bar où on fait une super soirée. Et je regarde Victor et je lui dis, mais on va boire un coup, on fait la fête et tout, c'est samedi, laisse tomber, on a tout déchiré et tout. Et il me regarde et il me dit, non mais je suis crevé, laisse tomber. Et quelque part, il m'a tellement freiné. Il m'a tellement... C'est pas cassé, c'est juste, il m'a dit, en gros, indirectement, c'est soit tu prends la voie de on sort tous les soirs et on fait la fête et chaque excuse est bonne pour sortir, soit tu prends notre boulot comme un business et t'essayes de durer et tu sors pas tous les soirs et t'essayes d'avoir une hygiène de vie. Et c'est ce qui s'est passé et je lui remercie parce que si il avait été un peu plus peut-être entier comme moi à vouloir faire la fête un peu tout le temps, je suis pas sûr qu'on en soit là où on en est aujourd'hui, sans dire qu'on a réalisé des monts et merveilles, mais c'est vrai que je dois beaucoup là-dessus.
Et c'est d'autant plus intéressant parce qu'en effet, je pense que c'est clairement les pièges dans ces
mais
métiers. Hein,
clairement, donc, ouais. Et puis tu les vois parce que moi, je vois il y a des types avec qui on a monté des bars, des restos en même temps, et puis t'as des personnalités où les mecs, forcément, c'est le milieu de la fête, et c'est pour ça que je te dis qu'on interdit à nos gars de boire, c'est parce que c'est le milieu de la fête et tu peux vite être pris dans le truc. Quoi. Et si t'as pas une hygiène de vie irréprochable et que tu ne considères pas ça comme un travail et comme un amusement, là, ça devient dangereux. Et donc, du coup, nous, on n'est pas tombé dans ce travers-là et pour le coup, on a eu de la chance. Après, on a fait d'autres erreurs parce que à l'époque, je te dis, on passe une première année où on explose et on a du monde tous les soirs. Et si tu veux... On n'avait aucun process, on processait rien, donc on arrivait à 15h30 parce qu'on ouvrait à 17h, et puis vu que la fermeture s'était pas processée, on terminait à 3h30. Et donc la première année, quand je te dis qu'on n'a pas vu le jour, c'était dur à la
fin.
Mais
c'est quoi un process dans un bar ?
Ah bah aujourd'hui, par exemple, chaque ouverture de bar, les gens arrivent à 17h, le bar est ouvert à 18h. On a un process de fermeture, on a 3 postes à cocktail dans chaque bar, qui sont des postes spécialisés. Et en gros, pour te donner un exemple type du vendredi soir, ben, t'as un poste qui ferme à 00h30. Le premier poste qui est fermé, il dure 20 minutes à être fermé. Il est 00h50.
La personne fermée, ça veut dire nettoyer
et tout. Okay. La personne qui a terminé son premier poste, elle commence à nettoyer un peu la salle. La deuxième personne, à 1h du matin, ferme son poste. Il reste plus qu'une personne à débiter des cocktails à 1h20.
Donc ça calme un peu les gens.
Ça calme et c'est surtout aussi pour des raisons de gestion horaire. Pour que, en gros, à 2h du matin, tout le monde soit dehors. Quand je dis tout le monde, c'est que ce soit les clients que les staffs.
D'accord.
Voilà. Comme ça, les gens commencent à 17h et terminent à 2h. Il est hyper important pour moi qu'il y ait ça. Pourquoi ? Parce que la restauration, c'est quand même un métier. Pour l'avoir vécu, on te dit « Ouais, non, mais c'est de telle heure à telle heure. » Et en fait, ça déborde d'une demi-heure de plus ou ça déborde de trois quarts d'heure de plus. Et c'est une demi-heure ou trois quarts d'heure. Ils sont entre guillemets, ils font partie du métier. Si tu les acceptes pas, tu les... Et c'est un truc que, pour moi... Tout travail mérite salaire et s'il y a une demi-heure de plus, elle doit être réglée. Et donc, c'est pour ça qu'on a tout processé pour se dire et connaître le fait que les gars arrivent à 17h, ils terminent à 2h du matin et c'est pas une, pas une minute de plus, pas une minute de moins, parce que nous, on l'a fait. Donc, on ne veut pas entendre, ben, on a terminé à 2h30 ou à 3h du matin parce qu'il y avait du monde. Non. La règle, c'est premier poste fermé à minuit et demi, deuxième poste fermé à 1h, troisième poste à 1h20. Et vous avez le temps en 40 minutes de terminer la salle. On le sait puisqu'on l'a fait. C'est nous qui avons établi les process.
Et alors du coup, vous avez grossi très vite. Alors tu dis, tu t'es fait dépasser, vous avez embauché assez vite.
Ouais, on a embauché comme ça des potes en job étudiant.
En effet, à chaque fois que je suis revenu, en fait, tu sais, c'est ce genre de truc où moi j'y vais pas. Bah, t'as ouvert ton premier bar l'année où j'ai eu mon premier enfant. Donc c'est les moments où tu sors peut-être un peu moins. Et du coup, tu débarques et puis tu reviens 6 mois après, le truc a plus rien à voir. Puis toi, t'es plus là. Tu vois, enfin, c'est un peu bizarre. Après, tu t'en ouvres un autre et puis après, tu vas nous raconter un peu tout ça. Mais du coup, en fait, à chaque fois que j'arrivais, j'avais l'impression que c'était complètement différent. Et ce qui est marrant, c'est que quand je te vois à chaque fois, t'es toujours dans l'expectative de ce qui va arriver après, quoi. C'est assez
Ouais. Après, j'essaye de vivre le moment présent, mais forcément, j'essaye de garder un maximum les pieds sur terre, mais j'aspire à d'autres choses. Mais ça, on en parlera peut-être plus tard, quoi.
Bon,
mais
on va y venir, justement. L'ours, dont on a pas mal parlé, moi, je connais aussi donc le renard.
Exactement.
Tu as aussi la loutre.
Exactement.
Donc, plutôt, l'ours, c'est dans le centre. Le renard, la loutre, c'est plutôt dans l'est. Donc, on a rue de Paradis, rue Jean-Pierre Timbaud et rue...
Rue Sambre-et-Meuse, rue Sainte-Marthe, en fait. Ouais. Le renard, c'est le deuxième qu'on a ouvert. On l'a ouvert en 2017. Et on a ouvert.
Déjà, moi, je suis venu boire des. Tu te souviens que je suis venu boire des coups au renard des bières avant que tu l'ouvres.
Bien sûr, c'était en travaux, t'étais passé avec Nico, je me rappelle. Et en fait, en 2019, de cette année, en janvier 2019, on a signé en septembre 2018. Et en janvier 2019, on a ouvert la loutre.
D'accord. Donc ça fait 3. Aujourd'hui, donc il y en a un qui est beaucoup plus. Plus deux qui sont plus gros, je sais pas.
Le
renard, il est gros. Hein.
Le renard fait 120 mètres carrés. C'est le plus gros qu'on ait. Et je vais te dire un truc, c'est le... Je pense, hein, après, rien n'est définitif, mais je pense que c'est la plus grosse, le plus gros qu'on aura. Parce que en termes de gestion, ça pose un peu des limites. Et puis, comme je te disais, là où on cherche vraiment à faire des bars à cocktails de quartier, plus t'es gros, moins tu ressembles à un bar à cocktails de quartier.
Tu veux pas aller comme, tu vois, j'ai reçu sur ce podcast Tigrane Cédou, et donc Big Mama Group, tu veux pas aller sur des sortes de méta bars à cocktails. Ils arrivent à garder une forme d'esprit un peu familial, je pense, en tout cas chaleureux, avec des trucs énormes.
Ils sont... Mais après, moi j'ai beaucoup de respect pour eux, c'est beau ce qu'ils font, c'est superbe, mais on n'a pas les mêmes moyens à la base, si tu veux. Ils créent des lieux qui sont magnifiques, quoi, qui sont sublimes, parce que ils arrivent à vraiment injecter beaucoup dans leurs travaux et avec beaucoup de goût, cela dit en passant. Et donc, du coup, ça rend des lieux parfaits et hyper chaleureux.
Je dois te rendre hommage aussi. Hein. C'est peut-être plus simple, mais vous faites des choses pas mal. Hein.
Ouais, on fait des choses très cool. On fait des choses très cool avec notamment le cabinet d'architecture Secousse, qui nous suit déjà depuis des années.
D'accord.
Je pense aussi à Marianne Ratier, qui est notre illustratrice, qui fait tous les papiers peints de tous les bars, qui a un talent
fou. C'est vrai,
fou.
Ouais.
Et puis voilà, après, je pense aussi au designer André Biteau. Qui est lui basé à Portland, qui travaille pour Nike, mais qui nous suit depuis le début. Et puis voilà, non, on essaye d'avoir un code similaire. Voilà.
Et aujourd'hui, le plus gros, c'est lequel?
C'est le renard.
C'est le renard, mais mon chiffre d'affaires, du coup, évidemment.
Ouais, exactement. Ouais. Qui fait 120 mètres carrés avec une salle privatisable. En fait, on est rentré avec Victor dans ce bar-là. On cherchait un endroit plus grand. Avec un espace, on nous demandait souvent à l'ours, est-ce que vous privatisez? La réponse était non, on ne veut pas privatiser parce qu'on veut que tous les gens puissent venir. C'est-à-dire que
un côté populaire,
voilà,
quartier, quoi.
Exactement. Ouais. Tu veux venir un samedi soir avec ta femme, tu viens. Tu veux venir avec des potes, tu viens. Et on ne veut pas te fermer la porte parce que pas possible. Ce soir, c'est privatisé pour l'anniversaire de
40 mètres carrés. Tu le privatises tous les samedis, quoi.
Ouais, exactement. Fin, c'est ça. Exactement. Et puis
c'est tirer une balle dans le pied, probablement.
Ouais. Et puis tu vois, c'est pour l'argent. Il y a un côté le faire pour l'argent, parce que qui dit privatisation dit
garantie,
dit devis accepté. Et donc du coup, nous, dans l'idée, c'est pas comme ça qu'on a créé l'Ours. L'Ours, c'était un bar de quartier avant tout, tu vois. C'est un lieu de rencontre.
Je me marre parce que je lis le. Je voulais te poser des questions sur le. sur le. Sur justement l'évolution de ton métier depuis 2013, parce que je crois que ça a quand même beaucoup évolué. Mais du coup, je regarde, tu sais, j'ai fait un épisode avec Louisa Arsen de ouais. Malou.io, ouais. Donc qui accompagne pas mal de restaurateurs, etc., dans leur notation en ligne notamment et leur e-réputation. Et je vois sur la page, quand je tape l'ours bar, par exemple, sur Google, je vois la définition, enfin, ou la description, bar à cocktail à l'ambiance décontractée et conviviale dans un décor. Dans un décor avec bois et papier peint orné d'ours. Ah,
exactement.
J'aime bien le truc.
Mais je vais te dire un truc, c'est pas nous qui l'avons écrit. Ça.
Je vois surtout la note de 4,5 ouais. sur 5 avec 520 avis, donc c'est quand même énorme. Au-delà de ces avis, dont tu peux peut-être me parler, mais il y a aussi. Enfin, dans les évolutions majeures, je pense qu'il y a par exemple, il y a plus d'espèces quasiment aussi.
Non.
C'est quoi les quelques gros trucs qui ont changé depuis 2013, quoi?
Eh ben, tu parles de l'espèce, j'ai envie de dire principalement l'espèce.
Ouais.
Enfin, pour le mode de fonctionnement, ouais, on a de moins en fait, le contactless a killé l'espèce. Alors, c'est toujours, on dit ça avec un sourire en coin de bouche parce que le métier de restaurateur, c'est quand même le métier, qui dit restaurateur dit black.
Ouais.
Nous, on n'est pas du tout, enfin, on ne peut pas parce qu'on a dupliqué et qu'aujourd'hui on n'est plus du tout dans les bars. Ouais. Mais si tu veux, c'est pas.
Je suis
pas,
très écouté à l'inspection générale des impôts. Ouais. Hein, donc.
C'est pas du tout notre business model. Mais de toute façon, je pense que le contactless a killé le black dans tous les restaurants et tous les. Parce que.
Aujourd'hui, c'est combien de. Tu dirais de.
Je dirais que nous, on est passé de. Entre 20 et 25% en 2013 à aujourd'hui 5 et 10%. Quoi.
Ouais, surtout que tu es une population jeune, donc là.
Tout le monde paye avec sa carte bleue. Ouais. Et nous, depuis qu'on n'est plus là, on prend la carte. Enfin, on a toujours pris la carte pour zéro. Et depuis que tu peux payer avec moins de 20 euros, nos cocktails étant pas chers.
Les téléphones, pareil, c'est pareil.
Téléphone, ouais. Téléphone. Et encore, là, samedi, j'étais à l'Ours, il y a quelqu'un qui a payé avec son téléphone. Donc, voilà. Et puis, après, qu'est-ce qui a changé dans le milieu des bars? Enfin, dans nous, en tant que commerçants, ça a été un vrai truc. Après, dans le milieu du cocktail, bon, il y a des modes, mais sinon rien de...
La réputation, j'imagine, en ligne a un peu bougé les choses parce que, bon, après, je crois que vous n'avez jamais vraiment eu le problème, vous, c'est depuis le début, authentique.
Non, en fait, on a jamais. Tu as toujours, en fait, des gens qui sont insatisfaits, voilà, tu sais quoi, moi, je l'entends avec pas avec plaisir parce que forcément quand on a une mauvaise note on est jamais très content mais si tu veux tu peux pas satisfaire tout le monde. Je trouve qu'on a des super notes, j'espère que ça va continuer et quelque part ça laisse transparaître que on fait notre métier correctement si tu veux, tu vois, on a des notes.
Il y a quand même Papa là Poitiers, si je viens de chercher pendant 5 minutes un avis négatif qui dit quelle utilité d'avoir un numéro de téléphone si vous ne décrochez jamais, personnel peu professionnel et antipathique, ouais. À fuir.
Bah,
c'est pas sympa, papa, là.
Non, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peut-être qu'elle a, je sais pas, elle a eu un...
Non,
et en plus, je vais te dire...
J'ai choisi le pas sympa, mais tout le monde dit extra, barman adorable, ambiance cosy, cocktail délicieux, pas cher, une adresse à retenir, je pense.
Non, mais c'est vrai. Tu vois, puis ça se voit, je veux dire, enfin, ça se voit, quand je dis ça se voit, c'est que tu tapes ours bar, tu vois, tu l'as dit par toi-même, ouais. On a 4,5 sur 500, je sais plus, 525 avis. Au renard, c'est 4,5 sur 250 avis. Et à la loutre, on est à 4,6 vu que c'est plus jeune sur 80 avis. La note générale, quand même, des avis qui vont plus ou moins dans le même sens indiquent que le lieu est bien tenu et qu'il vaut le coup.
Je viens de vérifier, il ne survend pas.
Voilà. Il vaut le coup. Non. il vaut le coup d'œil, quoi.
Le tout s'appelle les animaux bar, donc animaux.bar. Si vous voulez regarder un peu les sites internet, si vous voulez faire des privates sur la salle du
Exactement,
renard.
Exactement, la salle du fond renard et la cave à la loutre.
Et surtout, faut préciser, alors tu vas m'expliquer un peu l'avenir, mais que vous faites aussi pas mal d'événements. Ça, c'est assez cool. En l'occurrence, je suis pas là pour faire la promo des gens, mais aussi, t'es là quand même pour ça, toi. Moi, je l'ai utilisé, tu l'as dit, hein, pour mon anniversaire. Et voilà, je remercie aussi ma femme qui me l'a offert, en l'occurrence. Mais c'est un super truc parce que vous arrivez, vous installez un bar, c'est simple, c'est hyper bon. Je te dis même ma fille que vous avez des sans-alcool, elle a retenu que de ça de mon anniversaire. Donc c'est vraiment hyper chouette. Ça représente quoi de votre chiffre d'affaires, ça, l'événementiel ?
Alors écoute, de plus en plus, aujourd'hui, si tu prends Animo Bar, c'est-à-dire les trois bars et l'événementiel, je vais te dire que ça représente en gros 30%.
Du coup, c'est quoi le chiffre d'affaires général ?
Ça c'est bon, je peux pas trop en parler, mais enfin si je peux te dire, on est autour de, si tu veux pour l'événementiel, on est autour de 600-700.
Ah ouais, donc t'es au-delà de 2 millions quoi, au total.
Non.
Au total, si t'es à 30%.
Non,
au
global, on est à 1,8 million.
D'accord, ouais, c'est ça, 30%, ouais, ouais, un tiers. Et très bien, ouais, donc c'est ton plus gros bar, l'événementiel quoi.
C'est un de nos, on est super content de ce qu'on fait, si tu veux. On est super content de ce qu'on fait, et cette année on fait une année record. Pourquoi on fait une année record? Parce que on a réussi vraiment à pérenniser la chose, et à vraiment se développer en proposant des bars à cocktails de manière hebdomadaire, ouais, dans certains lieux. Donc si tu veux, nous, quand on a monté...
Donc des lieux tiers.
Exactement.
Bar à cocktail, où ça par exemple?
Eh ben, je sais pas si... Mais pour des grandes marques de luxe.
Ouais, ok, voilà. Très bien.
Pour des grandes marques de luxe, de grands groupes, je peux pas en parler, mais si tu veux, aujourd'hui, dans certaines boutiques, tu vas... Et tu as un bar à cocktail sans alcool, où on te sert des cocktails sans alcool. Bien sûr, on est en marque blanche, mais c'est des gens de chez nous qui font les cocktails. Voilà.
Trop bien.
Et nous, en fait, on est parti d'un postulat simple, c'est que donc, du coup, on a fait l'Ours Bar, on a fait le Renard Bar, et on s'est dit, top, nos cocktails plaisent. Avant de trouver la loutre, ou pendant de trouver la loutre, essayons d'exporter ces cocktails sur le lieu d'événement. Et en fait, ça a tout de suite pris. On a commencé à travailler pour certaines maisons de luxe. Et en fait, une fois que tu as mis un pied dans une grande maison de luxe, ben, quelque part, ça légitime un peu ton travail. Et derrière, on a pu se vendre pour n'importe qui, à droite, à gauche.
Encore une fois, ce que vous faites, c'est bon, quoi. Donc, je veux dire, une fois que t'as goûté le bon, c'est ce que dit Christophe Serral dans le dernier podcast, ouais, hein, bah, t'iras pas retourner sur du mauvais, quoi. Donc,
non, mais c'est sympa. Ça fait toujours plaisir d'entendre ça, parce que c'est vrai qu'on se donne du mal. Et là, je salue, pour le coup, le directeur événementiel chez nous, qui est Lucas, qui lui a fait un super taf l'année dernière. Pourquoi on fait une année record cette année? Parce que Lucas s'est démené, il a fait beaucoup de boulot, beaucoup de presse. Et là, justement, tu vois, après notre entretien, je vais faire un autre rendez-vous dans une autre belle boîte d'événementiel parisienne. Donc voilà, le but, c'est vraiment de développer ça, parce que pour nous, ça nous permet d'avoir des bars un peu à droite à gauche, en marque blanche, ou des événements un peu en marque blanche. Et en même temps faire nos cocktails et les exporter et nous faire connaître, quoi.
Et donc à la fois tu veux pas forcément je veux dire standardiser ton truc et faire un Starbucks des animaux, mais à la fois vous êtes quand même en croissance et en ouverture d'endroits, donc la difficulté, je sais pas, tu vas nous raconter, mais c'est d'être capable d'ouvrir sans créer une sorte de factory, d'usine un peu, tout en gardant ce côté familial cool. C'est quoi les projets là-dessus et comment tu fais pour garder ce truc authentique, quoi?
Bah, je pense que tu gardes ce truc authentique, enfin la partie bar, de par ce que je te disais tout à l'heure, de par la taille, en fait. Je pense que plus t'es petit, plus t'es modulable, plus t'es intimiste avec ton client, plus tu crées des liens sympas avec les gens de quartier et tout ça. Et c'est vraiment quelque chose que nous, on veut créer. Après, dans notre modèle de développement, là où je dis qu'on veut pas créer du Starbucks et on veut pas faire une chaîne, c'est que aujourd'hui, on projette d'en ouvrir encore deux à Paris. Et après, pas plus, si tu veux. Et derrière, on aimerait bien en ouvrir on commence à regarder activement dans d'autres villes importantes en France comme Lille, Lyon et Bordeaux. Tu vois, tu parlais tout à l'heure du groupe Big Mama. Nous, on regarde vachement ce que font les autres. On s'inspire, tu vois, parce que on est bien loin de leur développement. Mais tu vois, même petit, on s'inspire, on regarde. Et c'est vrai que tu vois, le fait qu'ils soient allés s'installer à Lille, pour nous, c'est un indicateur. Voilà. Donc nous, on recherche à en ouvrir encore deux autres à Paris, dans des quartiers comme le Second, comme South Pigalle, des quartiers qui sont jeunes, qui bougent, mais en même temps qui sont assez familiaux. Et puis voilà, après
17e quand même, ça
bah, je sais que 17e t'aimerais beaucoup, mais non c'est pas au menu. Mais pourquoi pas au Batignolles, mais c'est pas au menu. Si on trouve un beau local, why not.
La Plaine Monceau, c'est le meilleur quartier de
<Bien sûr. rire>
c'est pas gagné. On va en reparler. Et du coup, typiquement dans les gens qui nous écoutent, eux, à part te trouver un local, un endroit, etc., toi, tu cherches pas de partenaire. T'es vraiment dans un truc, c'est ouvert en propre. Tu fais pas de franchise, alors, ou de choses comme ça.
Moi, je vais être franc. Donc, si tu veux, on a ouvert le premier grâce à des Friends and Families. Le deuxième, on l'a ouvert en propre avec Victor, que tous les deux. Et en fait, on l'a ouvert en 2017. Et donc, en 2018, en septembre 2018, on a shooté la loutre, et donc vu que c'était un an après, on est allé voir, à l'époque on était à la Société Générale, on est allé voir notre banquière qui nous a dit laissez tomber, jamais on ne prêtera de thunes. Donc du coup nous un peu
moi la Société Générale ils me prêtent de l'argent,
ouais, nous on était un peu un peu énervés par cette manière de faire, surtout que si tu veux les chiffres sont ressentés, c'est à dire que l'ours, voilà, on l'a ouvert, en 15 mois, on l'a remboursé.
Ouais.
Voilà. On ne s'est pas payé pendant une année, en 15 mois, on l'a remboursé. Le Renard, on avait fait un prévisionnel.
Donc, ça fait plus de 10 000 euros par mois quand même à rembourser. Quoi. Ouais.
Le Renard, on l'a ouvert, on avait fait un prévisionnel, on a fait le double la première année. Donc, si tu veux, il y a quand même des indicateurs. Tu vas voir ton banquier, tu lui dis, bon, le premier... on l'a ouvert, on l'a remboursé en 15 mois. Le deuxième, on a fait un prévisionnel haut, on l'a explosé, on a fait le double. Là, on vient vous voir pour un troisième. Vous vous rendez bien compte que notre concept de cocktail à 6-8 euros, c'est quelque chose qui prend, quoi. Ça parle, puisque nous...
C'est plus un concept, enfin, c'est validé
c'est
par la Fédé,
c'est
quoi.
C'est plus lié à nous, puisque nous, on n'est même plus dans les bars. Ouais. On n'a plus le temps. Donc, la réussite des bars n'est plus liée à nous, elle est liée au concept, au fait que le cocktail n'est pas cher, bon, bien travaillé, et qu'on essaye de sortir du mieux qu'on peut des cocktails sympas. Et là, la banquière nous a dit, bon, allez-y, bougez, j'ai pas le temps, jamais on vous prêtera d'argent.
Pas sympa. Et,
vraiment, moi, j'en garde un très mauvais souvenir. Du coup, on est parti de la Société Générale et on est allé chez BNP, dans un centre d'affaires. Donc là, ce qui était plutôt pas mal, parce que bon... ils savent à qui ils parlent à des entrepreneurs.
Ton
voilà.
frère t'a payé pour...
Non, pas du tout, absolument pas. On est allé chez BNP dans un centre d'affaires et là, c'est vrai que c'est plus agréable parce que tu tombes pas sur un conseiller pro qui capte moins le truc. On a été tout de suite enclin à discuter un peu business. Ils ont l'habitude de parler avec des entrepreneurs, donc pour nous, c'était top, c'était assez réceptif. Et nous, vu qu'on avait ouvert le Renard et qu'on avait tout mis dans le Renard, on avait zéro à injecter. Et donc du coup, ils nous ont dit voilà, il faut arriver avec tant d'apports pour pouvoir acheter tel bar.
Toujours, t'achètes toujours des fonds de commerce, pas les murs.
Ben pas les murs, non. On aimerait bien se mettre à acheter les murs. Voilà, cette année on regarde, donc on prend contact avec les bailleurs et tout ça. Nous, on n'avait pas de fonds et on avait des personnes qui étaient prêtes à investir, donc pas des fonds d'investissement. Du coup, on est allé retourner voir ces Friends and Families certains nous ont dit non et certains nous ont dit oui, et notamment des amis d'enfance que je salue qui sont à l'heure actuelle au Japon, Marie et Antoine, qui eux nous ont suivis dans l'aventure de la loutre et d'Animo Bar, et qui étaient dès le départ aussi des grands clients de d'Animo Bar et qu'on connaît depuis de longue date, et qui eux sont prêts à nous suivre sur du long terme. Voilà.
D'accord. Et
donc, ils ont suivi sur la loutre, ils sont prêts à suivre sur les autres.
Et donc là, ils sont actionnaires de ces bars-là.
Pour l'instant, de la loutre.
D'accord.
Voilà.
Et c'est pas pareil que la première fois, c'est pas juste un emprunt. C'est vrai, là, ils sont actionnaires.
Alors. Pour l'instant, si tu veux, ils sont, vu que le deal devait se faire assez rapidement,
ouais.
ils sont pas en compte courant.
Ok.
Cependant, ce dont je te parlais un peu plus tôt dans la journée, c'est que nous, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a vraiment envie de développer à une autre vitesse. On a vraiment envie d'y aller. Et donc, du coup, pour ça, on est obligé de se structurer. Et pour se structurer, il faut vraiment qu'on monte une holding. Et donc là, on est en train de regarder pour justement les intéresser à la holding, puisque eux ont l'envie d'investir dans tous nos autres bars. Et donc, du coup, on est en train de monter cette holding pour pouvoir créer la biche, le ragondin, l'orignal. Enfin, je te sors des noms d'animaux comme ça, mais voilà.
Je précise que je ne suis pas actionnaire par souci de transparence, quoi. Mais je précise aussi que je suis un peu vexé que tu m'aies pas appelé. j'en connais d'autres qui seraient intéressés d'ailleurs.
Non, mais juste
Tristan qui.
Ouais, ouais. Salut d'ailleurs.
Salut. D'accord. Et donc l'idée c'est d'en ouvrir quoi, 2-3 par an maintenant ou...
L'idée c'est d'en ouvrir, voilà. Bon, déjà 2 à Paris et puis on commence. Là, on a un rendez-vous ensemble mi-novembre avec Marie et Antoine justement à Lille pour aller voir et essayer de se renseigner sur les fonds de commerce libres sur Lille, sur Lyon, sur Bordeaux. Voilà, et puis après continuer vraiment le développement de l'événementiel, parce que pour nous c'est top aussi.
On a l'impression que c'est bulletproof ton truc. Il y a des moments où ça marche pas, je sais pas, l'été. Ouais.
L'été. Non, mais pour être tout à fait franc, on a des bars à Paris, sauf la Loutre qu'on a ouvert en janvier, donc c'était notre première année. On a des bars à Paris qui sont des bars d'hiver. L'Ours, le Renard, c'est des bars où les gens s'entassent l'hiver, vont boire un cocktail pour trouver la chaleur. Mais il n'y a pas de terrasse, quoi. Il n'y a pas de vie d'été. Donc l'été, on a un petit coup dur. Heureusement qu'on a l'événementiel. Heureusement qu'on tourne bien l'hiver le reste de l'année. Mais c'est vrai que l'été, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus cool. Quand tu dis bulletproof, je sais pas et j'ai pas envie de me dire que c'est bulletproof et d'y croire. Si tu veux, je laisserai le temps dire ça. Moi, j'essaye de garder au maximum les pieds sur terre et de voir ce qui se fait à droite à gauche, essayer de regarder dans les autres bars à cocktails, quels sont les tarifs, qu'est-ce qu'on peut proposer, comment on peut le proposer, comment améliorer nos recettes de cocktails, comment proposer tel sirop maison plutôt que tel sirop industriel parce qu'on a trop de volume, et tout ça c'est des réflexions que j'ai et qu'on m'apporte aussi que les gens avec qui on travaille, je pense à Kevin, à Cameron qui m'ont encore proposé à la Loutre la semaine dernière de prendre du temps, d'avoir 2 ou 3 heures supplémentaires pour créer leur propre sirop, pour améliorer les cocktails. Donc, tu vois, tout ça, c'est... Je pense qu'il faut rester les pieds sur terre. Je pense pas que ce soit... Enfin, peut-être que c'est bulletproof, mais c'est le temps qu'il dira. Mais si tu veux, ouais, il faut continuer à bosser et rester dans le truc, quoi.
Trop bien. Et du coup, t'as eu une vague idée de ce que ce sera dans 10 ans ou de... Enfin, jusqu'où vous voulez aller, les ambitions les plus folles là-dessus
Les ambitions...
Est-ce que tu vas avoir... The Beer à London et
écoute, non mais les ambitions les plus folles c'est oui déjà en avoir peut-être allez 10-15 en France. C'est pour ça que je dis une chaîne entre guillemets parce que
un chaînon.
Comment ?
Un petit chaînon plus qu'une chaîne.
Exactement. Un chaînon parce que je pense pas que ce soit ça puisse s'implanter partout, si tu veux. On a quand même un côté un peu branchouille, entre guillemets. Et je pense pas que... Enfin, un animal bar peut aller partout, si tu veux.
Et c'est quoi ton... qu'est-ce qui fait qu'à quelqu'un qui nous écoute peut pas l'ouvrir à Besançon, quoi ?
Je sais pas, je connais pas Besançon, faudrait une étude de marché. Non, mais peut-être que ça peut aller à Besançon, mais je sais pas s'il y a vraiment une culture cocktail. Tu vois, s'il y a vraiment une culture cocktail là-bas.
Dans toutes les villes de France.
Ouais, voilà. Est-ce que la clientèle est là pour ça? Est-ce que c'est. Je sais pas. Tu vois, c'est vraiment.
T'es encore assez peu copié?
On est. Je touche du bois, j'ai pas encore trouvé de bar à cocktail pur à 6€, 8€. D'accord. Voilà, j'espère que ça va pas arriver demain. Non, et puis après, les rêves les plus fous, ce serait en effet aller à l'étranger, ce serait beau. Aller à l'étranger, et puis aussi se diversifier, tu vois, On a fait une réunion justement avec nos investisseurs et amis Marie-Antoine cet été. On parlait de lieux réceptifs, tu vois. Avoir un superbe mas en Provence, avoir quelque chose sur la côte basque où tu organises des mariages et puis tu vends le service cocktail bar, ou alors essayer d'avoir un petit hôtel ou voilà, c'est des projets auxquels on parle. Là, pour l'instant, c'est vrai que l'objectif numéro un, c'est vraiment développer et ouvrir plusieurs animaux. Et puis voilà, après on verra. On verra.
Écoute, trop cool. Je vais te poser une ou deux petites questions avant de finir tout ça.
Ah oui, bien sûr.
Est-ce que tu as des habitudes, je sais pas, de lecture, d'écoute, d'apprentissage? Comment tu apprends est-ce que tu as des livres à nous recommander?
Alors non, très sincèrement, j'ai pas de... Je lis beaucoup la presse, mais ouais. c'est pas là-dedans que j'apprends. L'apprentissage, et j'aime bien, c'est au début de tes podcasts où ça dit ouais. Nous sommes la somme...
La moyenne des personnes, ou la somme des personnes qu'on fréquente.
Ouais, exactement. Ouais. L'apprentissage, je le prends là-dedans. Je le prends là-dedans, je le prends dans les rencontres que je fais, je le prends sur le terrain.
La moyenne, pardon. Oui.
Ouais. je le prends sur le terrain, j'essaye d'apprendre de mes erreurs, de mes échecs, je le prends dans la discussion avec les autres. Et pour moi, il n'y a pas meilleur apprentissage que l'expérience et la discussion avec d'autres personnes qui parfois sont sujets au même questionnement ou ont vécu les mêmes choses et l'ont abordé de telle manière ou de telle manière. J'ai pas de lecture particulière, l'apprentissage je le fais comme ça. Et puis voilà, j'essaye de mettre au cœur l'humain à chaque fois. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'essaye de proposer des conditions salariales aux gens avec qui je bosse qui sont sympas, une ambiance de travail sympa. J'essaye que dès qu'il y a un problème avec un staff, j'essaye d'être... forcément, moi, je peux pas toujours être à l'écoute, mais que le directeur opérationnel qui est Frédéric... qui est avec nous et qui s'occupe de gérer les relations des trois bars, il essaye d'être là. Voilà, j'essaye d'être proche de mes équipes du maximum que je peux. Aujourd'hui, on en a trois. Peut-être que dans 10, je pourrais plus être aussi proche, mais j'essaierai d'être proche avec les gens qui géreront ça, quoi.
Je te filerai plein de lectures, tu verras.
Ouais.
et j'aime bien aussi parler un peu des moments difficiles, parce que je pense que c'est important et ça marque toute les vies d'entrepreneur. Si je dois te demander depuis 2013 avec Victor, ou toi d'ailleurs, hein, personnellement, peut-être les deux, enfin... ta pire nuit blanche ou en tout cas la vallée de la mort que tu as pu traverser, s'il y a des moments qui te marquent, où tu te dis
Il y en a une, c'est une anecdote, et après il y en a un, c'est plus un questionnement personnel. Donc l'anecdote, c'est j'ai un de mes staffs qui, je suis en train de dormir je me réveille à 3h30 du matin pour aller boire. Et là, je vois mon téléphone et je vois 4 appels ou 5 appels en absence d'un des gars au bar qui m'envoie un texto et qui me met juste « Il s'est passé quelque chose de grave. On en parle demain. » Merci. Donc là, il est 3h45 du matin. Autant dire que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai appelé 50 fois sur son portable pour essayer de le réveiller. Bon, il dormait. En l'occurrence, il s'était passé, c'était pas si grave que ça. Je touche du bois. Il y avait eu une embrouille entre clients, mais bon, ça a pris des grosses proportions. Ça m'avait mis mal, mais c'est vraiment purement anecdotique. Les vrais questionnements, et c'est pas des nuits blanches, mais c'est plutôt de se dire, moi, je suis quelqu'un d'assez simple, et le fait de me dire aujourd'hui j'ai trois bars, une entreprise de traiteurs qui fonctionne, et c'est en fait le questionnement dont je te parle, je l'ai eu il y a pas longtemps, j'ai eu la réponse, enfin je me suis donné un choix, il était de se dire bah voilà, ça fonctionne, je suis heureux, d'un point de vue professionnel ça marche, où est-ce que je veux aller maintenant? Et est-ce que je pars dans une entreprise où je développe et je vis pour ça, entre guillemets, hein, quand je dis je vis pour ça, c'est je développe et mon business, ce sera ça dans la vie, ou alors je garde ça de côté, j'ai 3 bars, je suis très heureux.
Donc est-ce que je suis en early stage ou est-ce que j'ai accompli mon truc et maintenant je fais tourner le machin?
Exactement. Et c'est pas de se dire je suis en early stage ou je fais tourner le machin, c'est plus de se dire je vais faire autre chose. Tu vois, se dire je vais toujours rester un peu dans le milieu du bar, mais je vais partir, je sais pas, me mettre faire du théâtre, tu vois, ou retourner dans le journalisme à la prod, ou tu vois. Et en fait, la réponse a été, ça a été pas mal de questionnements, et la réponse, elle est que je suis en early stage, quoi. Et je me suis donné cette réponse parce que je me suis dit. Go, faut y aller et je suis super content. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup de questionnements, mais je suis hyper heureux et quelque part, je me le dis pas trop, mais avec Victor, je suis super fier de ce qu'on a fait et de ce qu'on est en train de faire. Et j'espère que ça va continuer encore un bon moment et que quand je te dis que peut-être un jour un hôtel et peut-être un jour des lieux réceptifs et peut-être un jour d'autres choses. Voilà, on continue. Là, on va voir le prochain, puis le second, puis celui d'après et puis voilà.
Bah top. Bah écoute, je vous le souhaite avec Victor. C'est cool. On peut te contacter sur LinkedIn, je pense, en guérant Marc, peut-être.
Alors
Instagram.
Alors non, j'ai pas LinkedIn. On peut me contacter sur Instagram @animobar, @animaubars. Voilà, c'est pas moi le community manager, mais on me transmettra les infos.
Sur animo.bar, il y a un formulaire de contact.
Voilà, exactement, il y a un formulaire de contact.
N'essayez pas de les appeler sur le téléphone, a priori, ils répondent pas, c'est écrit
exactement,
sur Internet.
Exactement, d'ailleurs, le téléphone est là, il est en mode avion, je vous cache pas, parce que on m'a demandé de le mettre en mode avion. Donc, je pense que si vous avez voulu passer une résa lundi 23 septembre à 15h, c'est mort.
C'est mort.
Mais non, après, voilà, je suis joignable assez facilement. Il n'y a pas de souci, ou sur Facebook, en guerre en marque. Okay. Voilà, et en tout cas, merci de m'avoir invité, Matt.
Bah, merci à toi, Enguerrand. Je te remercie, je viendrai boire des cocktails.
Quand vous voulez, moi...
Et puis, si vous y allez, vous dites que vous avez entendu ça sur Génération Do It Yourself, vous aurez une remise, ouais. Je suis sûr.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah oui. Et puis comme ça, on coule dans un...
voilà. Non, non, à 6 balles le cocktail, c'est chaud.
Non, mais
dites-le quand même, quoi, c'est bien.
Exactement, ça dites-le.
Très bien. Je t'embrasse. Merci à tous. Allez boire des cocktails sans alcool ou avec alcool, mais avec modération.
Toujours.
Puisqu'il faut le dire. Hein. Et puis, sans alcool, vous pouvez y aller sans modération d'ailleurs. Et voilà. Faites-vous plaisir. J'ai été ravi de vous entendre. Notez très bien les bars de animaux sur Internet. Hein. 5 étoiles, c'est comme le podcast.
Exactement.
5 étoiles sur 5, parce que c'est toujours mieux que 4. 4, c'est pas terrible. Voilà. Et sinon, votez pas. Je vous embrasse. À bientôt sur Génération Do It Yourself. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@causavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.